philosophie de la nature et du vivant à Rimaud, le 21 décembre 1994, première conférence par le Père Samuel.
Alors on va travailler aujourd'hui sur la philosophie de la matière et puis vous travaillerez demain et après-demain avec le Père Philippe sur la philosophie du vivant. On va commencer pendant cette heure à situer la philosophie. Vous allez voir que c'est deux parties de la philosophie qui sont liées l'une avec l'autre. Et je pense que pour mieux saisir leur importance, ce qu'on va essayer de faire pendant cette heure, on va essayer de voir quelle est la place de l'approche philosophique de la vie et de l'approche philosophique de la matière par rapport aux sciences. Puisque il y a des endroits où la philosophie ne rencontre pas les sciences positives, par exemple la métaphysique ou la philosophie de l'art. Il y a des parties de la philosophie dans lesquelles les sciences, j'allais dire, n'occupent pas le terrain. Alors à ce moment-là, le philosophe est plus libre de réfléchir. Et puis on va le voir, on sait que le domaine de la vie, comme le domaine de la matière, sont des terrains extrêmement occupés par la science aujourd'hui. Et je pense qu'avant d'aborder la philosophie précisément de la matière et de la vie, il faut commencer par essayer de saisir la différence du regard pour qu'on ne soit pas tout le temps court-circuité et qu'on puisse même se servir au besoin d'une confrontation entre la science et la philosophie. Saisir à la fois la différence et la complémentarité entre ces deux regards. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de scientifiques qui partent de l'approche scientifique de la matière et de la vie pour faire de la philosophie. Vous avez des gens comme Bernard d'Espagna, vous avez peut-être entendu déjà parler, un certain nombre d'astrophysiciens, Hubert Reeves, qui sont des gens qui font de la vulgarisation scientifique. Reeves, ça vous avez sûrement entendu, on le voit partout, qui est d'une philosophie plutôt bouddhiste, mais qui est un astrophysicien de très haut niveau d'Espagna. Et qui partent de l'approche scientifique pour essayer, à partir de l'approche scientifique, de dégager un discours, pour essayer de voir comment est-ce qu'au fond on peut se représenter le monde et la place de l'homme dans le monde à partir de l'analyse de l'astrophysique, à partir de l'analyse de la biochimie. Vous avez aussi tout un courant qui travaille, vous savez, sur la biologie. Aujourd'hui, vous avez tout un nombre de biologistes qui prétendent donner une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme, à partir de l'approche biologique. Quelqu'un comme Changeux. Il écrit un livre qui s'appelle « L'homme neuronal ». J'aurais pu vous donner des exemples, mais je ne veux pas les lire, parce qu'il y a beaucoup de littérature qui consiste donc à... Alors, j'allais dire, c'est trop facile à la fois de les critiquer en disant ils n'ont rien compris, seule la philosophie est capable de parler correctement de la matière et de la vie. Je crois que ce qui est important, c'est de prendre le temps de distinguer, c'est ça que je voudrais faire pendant cette heure-ci, de distinguer ces deux regards et en même temps de découvrir l'importance du coup particulière qu'a la philosophie de la matière et de la vie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si tous les gens qui lisent de la vulgarisation scientifique n'adhèrent pas nécessairement à la philosophie de ces scientifiques, c'est cette vision des choses qui occupe le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont une vision de la vie et de la matière qui est une vision exclusivement scientifique. Il n'y a rien pour équilibrer leur regard, il n'y a rien pour le corriger, il n'y a rien pour l'approfondir. Et on va voir que ça a des conséquences relativement graves, parce qu'au fond, ça réduit complètement le regard sur la matière et la vie, et donc ça réduit complètement le regard de l'homme sur lui-même. Un lieu dans lequel c'est extrêmement frappant, c'est le domaine médical. Aujourd'hui, la médecine est très marquée par l'approche scientifique, et le regard que donne la médecine sur l'homme est un regard qui est très présent, pas simplement chez les médecins, qui est présent aujourd'hui dans l'ensemble du monde occidental, qui est une vision de l'homme qui est essentiellement déterminée par une approche scientifique. Parce que la médecine est devenue, à partir de Claude Bernard, extrêmement marquée par l'approche expérimentale et par l'approche scientifique. Et donc je crois que c'est important, si vous voulez, de commencer par faire le point là-dessus. L'approche scientifique de la vie et de la matière qui est en fait assez vieille. C'est-à-dire que d'abord, il y a un fondement commun. C'est intéressant de voir qu'on a des parents communs. La philosophie et la science ont des parents communs qui sont les présocratiques. Les présocratiques, c'est les philosophes qui sont avant Socrate. Qui ont cherché à comprendre, si vous voulez, la philosophie, et ça c'est intéressant, est née avant Socrate d'un souci de comprendre l'univers. Et d'une certaine manière, dans l'histoire de la philosophie, la compréhension de l'univers et même la compréhension de la vie a précédé la recherche de la compréhension de l'homme. Les présocratiques se sont penchés sur les phénomènes cosmiques, sur les éléments qui composaient l'univers, sur l'organisation de l'univers, sur la fabrication de l'univers, sur la transformation des éléments, avant de se pencher sur l'homme. Ils se sont même penchés sur la question du lien entre Dieu et l'univers, sur la question d'une sagesse créatrice, d'un logos, leur créateur au sens flou, hein, parce que la philosophie de la création n'est pas très précise, sur le logos, c'est-à-dire sur l'intelligibilité de l'univers, et même sur l'être, avec Parménide, sur le devenir, avec Héraclite, avant de se pencher sur l'homme. Pour ça d'ailleurs qu'au sens strict, on considère que la philosophie naît avec Socrate. Pourquoi ? Parce que Socrate est le premier à partir de l'homme pour réfléchir sur l'homme et à dire le rôle de la philosophie, c'est d'abord de permettre à l'homme d'être heureux. C'est-à-dire, au fond, la philosophie consiste d'abord à permettre à l'homme d'être plus humain. Et elle n'a pas d'abord pour but de spéculer sur l'univers. Donc j'allais presque dire, Socrate a un souci pratique, si vous voulez, qui est que sa réflexion serve à son existence, que sa réflexion soit menée à partir de son existence. Le « connais-toi toi-même » de Socrate, c'est ça. Socrate ne dit pas « commence par connaître les astres, tu te connaîtras mieux toi-même ». Il ne dit même pas « commence par connaître les dieux, tu te connaîtras mieux toi-même ». Socrate dit « connais-toi toi-même ». À partir de ce moment-là, tu pourras avoir peut-être un discours sur les dieux qui soit correct. Ça lui a valu des problèmes avec la religion officielle et avec les philosophes aussi. Donc je crois que c'est très intéressant de voir que si vous voulez, peut-être d'ailleurs que tout le clivage il est là, hein. Les présocratiques sont, encore une fois, sont les pères à la fois de Socrate et à la fois les pères de la science. Pourquoi ? Parce que on va le revoir, la science contemporaine. Mais déjà la science dans le haut Moyen-Âge et dans l'Antiquité, la science cosmogonique, on va y revenir, ou la science, pour être plus précis, la science astronomique, puisque c'est surtout là-dessus qu'ils ont travaillé, a été une science qui très rapidement et de plus en plus s'est séparée de la question de l'homme. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'historiquement, celui dont s'est servi la réflexion sur les astres, sur la vie, sur l'univers, la plupart de ceux qui ont réfléchi dessus, c'est Aristote. Ils se sont tous servis d'Aristote. D'Aristote et des présocratiques. Ce qu'on appelle les modèles de cosmogénèse ou de cosmogénèse. Et les modèles astronomiques. Vous voyez la différence, hein ? Le modèle astronomique, c'est le fonctionnement, c'est le mouvement des astres. C'est saisir le mouvement des astres. Et la cohérence et la logique du mouvement des astres. La cosmogénèse, c'est d'essayer d'imaginer comment s'est créé l'univers, comment s'est formé l'univers. Donc c'est deux problèmes différents. C'est pas la même chose d'étudier comment ça tourne et d'étudier comment ça a été fabriqué. D'accord ? La cosmogénèse, c'est la fabrication de l'univers. Alors, la cosmogénèse, mais évidemment elles sont liées l'une à l'autre. Plus l'astronomie a des moyens d'études fines, et plus elle est obligée d'affiner ses hypothèses de cosmogénèse. Surtout que la cosmogénèse, elle a été toujours menée, enfin elle n'a pas toujours été menée, mais elle a été menée à partir de l'Antiquité, souvent en parallèle avec la biogénèse, ou si vous voulez, la formation de la vie, la formation des vivants, ou la formation des réalités sublunaires. C'est-à-dire qu'on a fait un parallèle entre ce qu'a fait notamment Démocrite, entre la formation de l'univers dans son ensemble et puis la formation des réalités sensibles et plus particulièrement des vivants. Il y a toujours eu, à partir de... Ça, c'est vieux comme les mythes, de lien entre ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire de parallèle entre la formation de l'univers et la formation de l'homme, ou entre la formation de l'univers et la formation des éléments terrestres, ou la formation de l'univers et la formation des vivants. Donc vous voyez, ça c'est vieux, c'est pas les scientifiques et les astrophysiciens contemporains qui ont inventé ça. Ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. Et on peut même souligner qu'avant les présocratiques, c'est ce qui est présent dans les mythes. Quand vous lisez Hésiode, quand vous lisez les mythologies mésopotamiennes ou précolombiennes, vous voyez que il y a toujours ce souci, de manière symbolique, de représenter la formation de l'univers pour expliquer l'état de l'univers. Et pour expliquer dans l'univers la place de l'homme. Donc ça, c'est très vieux. Je dis ça parce que des gens comme Reeves rattachent l'astrophysique contemporaine, la réflexion astrophysique contemporaine jusqu'au mythe, en disant, ben voilà, le premier moment où on a commencé à réfléchir sur l'univers, la place du vivant dans l'univers et la place de l'homme dans l'univers, ce sont les mythes. Avec ces différences, c'est que la manière d'en parler était symbolique et religieuse. À partir des présocratiques, on cherche à sortir de la symbolique religieuse pour réfléchir à la constitution, à l'ordre. Ce qui caractérise les présocratiques, c'est qu'ils sont les premiers à réfléchir sur l'ordre intelligible de l'univers. Pas simplement un ordre symbolique ou un ordre affectif. Le Perfit aime bien citer ce mythe qui commence par un canard. Le canard plonge dans l'eau, soulève la vase du fond de et du coup il crée l'univers à partir de ça, en mélangeant la terre à l'eau. C'est très beau, je ne sais pas si le canard représente Dieu, mais si vous voulez, c'est clair que c'est symbolique. Le travail des présocratiques, c'est précisément de dégager derrière les symboles de cosmogénèse, derrière les mythes de cosmogénèse, une rigueur, une logique, pour essayer de comprendre quel est l'ordre, c'est leur souci, quel est l'ordre de l'univers, quelle est la place de l'homme dans l'univers, quelle est la place du vivant dans l'univers. Ça demeure le souci d'Aristote aussi. Mais après Socrate, en centrant sa réflexion sur l'homme. C'est ça dont on le verra, c'est ce qui différencie radicalement l'approche philosophique de l'approche scientifique. L'approche scientifique ne part pas de la question de l'homme. Mais ce qui est impressionnant, c'est que, en se servant d'Aristote, qui pourtant lui avait centré toute son analyse sur l'homme, est née une approche astronomique et de cosmogénèse jusqu'à Copernic d'ailleurs n'a fait, et Galilée n'ont fait que prolonger ce type de réflexion, qui sont des réflexions qui, encore une fois, sont séparées complètement de la question de l'homme, et qui, à la fin de l'Antiquité, dans le Haut Moyen-Âge, puis durant tout le Moyen-Âge, puis jusqu'à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, va avoir de plus en plus un souci de vérification mathématique, un souci de construction abstraite. Et puis progressivement, un souci de vérification expérimentale. C'est pour ça qu'on situe, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on fait naître la science contemporaine avec Galilée, c'est un peu simpliste. Parce que Galilée n'avait pas les outils conceptuels. Mais ce qui caractérise Galilée, c'est qu'il est le premier à être essentiellement soucieux d'une vérification expérimentale. C'est-à-dire que c'est vrai parce que ça marche. Enfin, mon modèle est vrai parce qu'il marche. Alors, petite parenthèse sur Galilée, parce que vous allez voir que c'est significatif de ce qu'on va travailler après sur la science. le cardinal, c'est, j'oublie son nom, qui est devenu un saint après. Bellarmin. Le cardinal Bellarmin. Robert Bellarmin. Qui avait rencontré Galilée. Mais manque de chance, il est mort avant le procès de Galilée, parce qu'il aurait sans doute eu des choses très intéressantes à dire. Il avait dit à Galilée, l'hypothèse que vous émettez est intéressante. Mais souvenez-vous toujours que ça n'est qu'une hypothèse. Gardez-vous de prétendre que l'hypothèse que vous émettez, c'est le réel. C'est très intelligent, ça. Et je crois que c'est très important. Hein. Vous voyez, Galilée donc, a émis une hypothèse qui est que la Terre, que le Soleil soit au centre du système, enfin que la Terre tourne autour du Soleil et pas le Soleil autour de la Terre. En fait, on sait depuis d'ailleurs que personne ne tourne autour de personne puisqu'il n'y a pas de centre dans l'univers. Donc, on ne tourne pas plus l'un autour de l'autre que l'autre autour de l'un. Tout dépend du point de repère qu'on choisit. Voilà. Mais ce qui était très intéressant, si vous voulez, c'est cette lucidité de Bellarmin qui était de dire au fond. Votre observation vous permet de construire une hypothèse, donc petit 1, observation. Deuxièmement, hypothèse. Troisièmement, vérification. D'accord ? Expérimentale. Et là, vous avez effectivement le processus de naissance de la science. Qui est tout autre que celui de la philosophie, on verra. Le travail du philosophe n'est pas d'émettre des hypothèses. Pourquoi ? Parce que, et c'est très intéressant de voir que l'hypothèse, hein, on est d'accord, c'est une construction de l'esprit. Quand vous émettez une hypothèse scientifique, c'est une construction de l'esprit. Appuyée sur l'observation. Mais je n'ai pas l'expérience, au sens strict, je n'ai pas l'expérience absolue que la Terre tourne autour du Soleil. Parce que manque de chance, je suis sur la Terre. Donc je n'ai pas le moyen de me... Il faudrait que je puisse me situer en dehors de l'univers pour être capable d'avoir l'expérience que la Terre tourne autour du Soleil et pas le Soleil autour de la Terre. D'accord ? Par contre, ce que fait Galilée, c'est qu'il dit, voilà, l'observation... certaines observations ne sont pas... ne sont pas expliquées par l'hypothèse que le Soleil tourne autour de la Terre. Donc c'est faux. Là, il a parfaitement raison. C'est faux de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Et donc il émet une hypothèse qui permettrait de vérifier, d'expliquer ce qu'il a observé. Alors il a construit une hypothèse qui est que le Soleil tourne autour, que la Terre tourne autour du Soleil. Et beaucoup des choses qu'il a observées étaient vérifiées par cette hypothèse. Manque de chance, depuis on a observé des choses qui montrent que son hypothèse elle n'est pas suffisante non plus. Évidemment, il n'avait pas les outils, lui, pour le voir. Mais oui, je crois que c'est très important de voir que l'hypothèse, on la modifie chaque fois que l'observation devient plus fine. Voilà. C'est comme ça qu'avance la science, d'ailleurs. Tous les modèles sont remis en cause. Pourquoi ? Parce que l'observation qu'on fait est plus précise et donc oblige à avoir un modèle plus élaboré. Mais vous voyez bien que l'hypothèse, c'est un modèle. C'est-à-dire, pour parler philosophiquement, c'est conceptuel. C'est une construction conceptuelle, un modèle. Ce qui veut dire que c'est toujours schématique. Ce qui veut dire, comme tout ce qui est schématique, que c'est toujours partiellement faux. Ce dont les scientifiques, d'ailleurs, sont parfaitement conscients. Galilée ne l'était pas, parce que son erreur, elle était précisément de prétendre que ce qu'il avait atteint scientifiquement était plus réel que tout ce que pouvait dire la philosophie ou la foi. Et l'erreur objective de Galilée, c'était celle-là. C'est pas tout à fait la raison pour laquelle il était condamné. Hein. Il était condamné parce que les autres lui en voulaient, qu'il leur cassait les pieds et qu'il fallait le ranger dans une belle villa avec des gardes autour. Si vous voulez, c'est très schématique, mais c'est ce qui reste absolument vrai pour toute l'approche contemporaine de la matière et de la vie. Et de la vie aussi. Hein, aujourd'hui, alors je vais prendre un petit exemple, parce que celui de la matière. Aujourd'hui, 90% des Français sont persuadés que la matière est composée d'électrons, de protons, de neutrons et de particules. D'accord ? Vous demandez à un astrophysicien d'assez bon niveau, pas simplement un observateur, il vous dira, c'est évident que non. que les particules, on n'en a jamais vu. Jamais personne n'a vu une particule. Vous ouvrez des grands yeux. Ce qu'on a observé, c'est des phénomènes. Ces phénomènes, pour les expliquer, on a établi une hypothèse qui est que la matière soit composée de particules. Et on a vérifié cette hypothèse et globalement, elle est vérifiée. Manque de chance, il y a des phénomènes par lesquels elle n'est absolument pas expliquée, ce qui montre bien que ce n'est pas une hypothèse suffisante. Donc actuellement, personne n'a jamais vu ni un électron, ni un proton, ni un neutron, ni un boson, ni tout ce que vous voudrez. Ni un quark, ni tout ce que vous voudrez. Ça, c'est important si vous voulez de le savoir, parce qu'un scientifique vous dira, un électron, un proton, un neutron, c'est un concept opératoire. Je dis ça pour pas que ça vienne interférer toujours, vous voyez, qu'on ne mélange pas les choses. Alors, nous, la vulgarisation scientifique ayant la même capacité que la mythologie, qui est de nous faire prendre le symbole pour la réalité, on finit par croire qu'effectivement, ce qui représente la réalité, c'est la réalité. Non. C'est vrai pour, je ne veux pas détailler, mais c'est vrai pour toute l'astrophysique. Même chose pour le Big Bang. Hein, un scientifique vous dira, le Big Bang, ce n'est pas scientifique. C'est une hypothèse, le Big Bang. C'est une manière d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Et d'ailleurs, de ne pas pouvoir en expliquer d'autres. Et donc, au fond, on choisit comme hypothèse majeure celle qui a l'avantage d'expliquer le maximum de choses. Un autre exemple d'hypothèse, c'est celle de Darwin, qui n'explique plus grand-chose. Mais parce qu'on n'en a pas d'autres, c'est toujours celle-là qu'on garde. Darwin explique que la vie, c'est la même chose, construit un modèle en disant la vie évolue. Et donc la vie franchit le seuil d'une espèce à une autre par mutation génétique brusque. Bon. C'était très joli, si vous voulez, comme schème. C'est très satisfaisant intellectuellement. Depuis Darwin, on cherche des vérifications à sa théorie et on n'en trouve pas. On n'a encore jamais trouvé de vérification à ce qui est le nœud de la théorie de Darwin, qui est le passage d'une espèce à une autre. Jamais. On a observé des évolutions intra-espèces. Pardon. Alors ça, oui, tout à fait, on a vu qu'effectivement, le vivant évolue. Il peut même évoluer énormément dans une espèce. Mais on n'a jamais vu une espèce, on n'a jamais vu, si vous voulez, une grenouille sortir de l'eau pour se transformer en léopard. Enfin, je caricature, si vous voulez, mais on n'a jamais vu passer un animal d'une espèce au sens strict à une autre, c'est-à-dire faire un saut qualitatif radical. C'est important de voir les grandes théories d'aujourd'hui qui ne sont que des hypothèses et de voir qu'elles ne sont pas toutes vérifiées de la même manière. Hein. Celle des particules est beaucoup plus vérifiée que celle de Darwin qui n'est pour l'instant encore pas du tout vérifiée dans ses éléments clés. Mais comme le disent les gens avec les compétents, ils disent le problème c'est qu'on n'en a pas d'autres. Et c'est vrai, on n'en a pas d'autres. Comment expliquer la différence des espèces et leur apparente continuité? On n'a aucun moyen d'expliquer. Alors c'est fatigant, si vous voulez, d'avoir des questions sans réponse. Donc on émet une hypothèse provisoire. Mais elle est de plus en plus provisoire. Même chose pour la biologie. Quand aujourd'hui on vous parle d'information génétique, quand on vous parle de carte génétique, même quand on vous parle de l'ADN, bien sûr, ça part d'une observation. Hein. Alors, on vous met des photos avec un petit machin qui bouge. Enfin, très bien. On le reverra tout à l'heure. On est tout autant dans l'abstraction. Pourquoi ? Parce que dans l'observation, on a choisi un phénomène particulier qu'on a construit théoriquement en faisant abstraction de tout un nombre d'éléments et en ne tenant compte que d'un minimum d'éléments. Et à partir de ça, on essaie de vérifier si ça marche. Mais c'est la même chose. Expliquer, si vous voulez, la transmission de vie d'un vivant à un autre uniquement par la génétique fondée sur l'ADN, c'est simpliste, ce que savent tous les gens compétents. Donc vous voyez, c'est important de voir que donc la science opère par hypothèse, c'est-à-dire par construction, elle procède toujours aussi par abstraction, c'est-à-dire par sélection. Normalement, quand elle est lucide sur elle-même, elle n'a jamais la prétention d'expliquer globalement un phénomène. Elle n'a la prétention que d'expliquer une part du phénomène. C'est pour ça d'ailleurs qu'un bon biologiste vous dira on est incapable d'expliquer la vie et on ne sera jamais capable d'expliquer la vie. Ce qu'on est capable, c'est d'expliquer comment s'agence, comment fonctionne un certain nombre de choses dans le vivant. Donc c'est important de voir que les sciences de la matière et de la vie laissent entière la question qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que la vie ? Puisque ce qu'elles essayent de m'expliquer, c'est comment la matière fonctionne, comment la vie fonctionne. C'est deux questions différentes. Vous pouvez décrire comment fonctionne une voiture, ça ne vous dit pas à quoi ça sert. Vous pouvez décrire les phénomènes, c'est ce qu'a fait le brave changeur, vous pouvez décrire les phénomènes endocrinaux et les phénomènes biologiques qui sont liés au fait que quelqu'un tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Expliquer que l'amour c'est ça, c'est stupide. C'est ce que fait changeur. Et la prière aussi fait ça avec la prière. Quand vous priez, il y a certains phénomènes chimiques qui n'apparaissent pas quand vous faites autre chose. La méditation et la prière, ça développe certains types de... Voilà. Donc on vous dit, voilà, la prière c'est qu'un phénomène d'enzyme, de c'est un phénomène biochimique. Ce que dit Changeux avec une assurance absolument déroutante. Que, vous voyez, donc, il ne faut pas confondre la cause matérielle, c'est-à-dire le phénomène qui accompagne quelque chose et cette chose en question. D'accord ? Ce qu'est la vie n'est pas réductible à sa manière de fonctionner. Ce qu'est la vie n'est pas réductible aux éléments qui constituent un vivant. A fortiori, à l'analyse et à la reconstruction scientifique de ce qu'est un vivant. Ça n'invalide absolument pas la science. Hein. Vous voyez bien qu'il ne s'agit absolument pas de critiquer la science pour elle-même. Elle a cette utilité énorme, c'est que précisément comme elle a un modèle qui cherche à comprendre le fonctionnement des choses, c'est qu'elle peut agir sur eux. Pour ça d'ailleurs, c'est vrai, on a toujours été impressionné que les mathématiques aient une vérification. Vous savez, on a inventé les nombres imaginaires, je ne sais plus combien de siècles ou d'années avant qu'on découvre l'électricité. Et on a découvert que les nombres imaginaires permettaient d'expliquer l'électricité. De la même manière, on voit que des choses découvertes dans une science permettent d'être appliquées à une autre. Et on découvre surtout qu'une recherche scientifique pour elle-même, c'est-à-dire chercher à comprendre comment fonctionne le vivant, permet d'agir sur le vivant. Ce qui montre bien qu'il y a un lien extrêmement profond. C'est que j'aime bien le terme de concept opératoire. Il y a un lien extrêmement profond entre l'hypothèse scientifique et l'efficacité, si vous voulez, et la maîtrise. Ce qui est normal, puisque précisément, il s'agit de comprendre le fonctionnement. Ou pour parler philosophiquement, de comprendre le comment de la réalité. Vous savez, les enfants, ils demandent d'abord qu'est-ce que c'est. Puis ils demandent pourquoi. Après, ils demandent comment ça marche. Mais ils ne demandent jamais comment ça marche. Enfin, des fois, ils demandent tout de suite comment ça marche, c'est très triste. Mais normalement, ils commencent par demander qu'est-ce que c'est. Et la question qu'est-ce que c'est, ce n'est pas la même question que la question comment ça marche. Quand un enfant commence à s'intéresser comment marchent les choses, c'est parce qu'il veut pouvoir les maîtriser. Parce que la phase de l'admiration est rapidement franchie, si vous voulez. On voit ça au moment des cadeaux de Noël. L'enfant, vous avez la phase où l'enfant admire son cadeau, c'est-à-dire que c'est objet d'une admiration magnifique. Surtout quand ce n'est pas lui qui l'a choisi. Et puis vous avez la phase d'après où il n'a pas le temps, il veut tout de suite voir comment ça marche. Son admiration n'est pas dans ce qu'est la chose, et encore moins dans celui qui le lui a offert, mais d'abord dans comment ça marche. Alors après, il y a souvent un temps second, si vous voulez, où une fois qu'il a vu comment ça marchait, il vient de dire merci. Mais tant qu'il n'a pas vu comment ça marche et à quoi ça sert et comment ça fonctionne, si vous voulez, il ne va pas dire merci. Donc je crois que c'est important de voir que le réfléchir sur le fonctionnement de la matière et du vivant, c'est normal que ça ait un lien immédiat. Si vous voulez, c'est le problème aujourd'hui de bioéthique. Comment se fait-il que tous les gens qui réfléchissent sur la vie ne puissent pas s'empêcher d'avoir un désir irrépressible de manipuler la vie? C'est étonnant, ce n'est pas parce que c'est des gens tordus, mais c'est parce que la démarche de connaissance qu'ils ont est une démarche qui est liée à la maîtrise. Vous voyez, la maîtrise conceptuelle appelle la maîtrise effective. Ce qui, évidemment, implique le risque très grand qui fait qu'on dit, si on peut le faire, on doit le faire. C'est normal qu'on raisonne comme ça à partir du moment ou la manière dont on réfléchit sur les choses a essentiellement pour but de les maîtriser intellectuellement. Donc, d'une certaine manière, ça c'est la critique du philosophe, de les ramener à moi. D'accord ? L'hypothèse scientifique, elle doit avoir toujours deux avantages. L'un, c'est d'être vérifié, l'autre, c'est d'être utilisable. Si vous voulez, les hypothèses floues, ça n'existe pas. D'accord ? Vous n'écrivez pas des modèles mathématiques, si vous voulez, avec des trous dedans, en disant bah là, c'est pas encore très précis, on va voir comment ça se débouche. Même chose, vous voyez, je veux dire, pour parler comme Descartes, la construction d'un modèle scientifique a normalement comme qualité propre la clarté des concepts et la clarté de l'agencement des concepts. On va voir que ça n'a rien à voir du coup avec la connaissance philosophique qui est essentiellement confuse, lente, fatigante, pas précise, approximative, enfin c'est juste l'inverse. La philosophie est un très mauvais moyen pour maîtriser les choses. C'est un très bon moyen pour les contempler et les admirer, mais c'est un très mauvais moyen pour les maîtriser, du point de vue pratique. La preuve, si vous admirez tellement votre voiture, si vous voulez que vous savez pas, que vous ne pensez même pas à réfléchir comment elle. Voilà. Les deux sont nécessaires. Donc là aussi, je crois que, vous savez, de temps en temps, on se pose le problème. On pose aujourd'hui le problème de la gratuité, enfin de la liberté de la recherche. On dit, voilà, le scientifique a droit de connaître pour connaître. Ce qui est vrai, l'homme a le droit de chercher la vérité pour chercher la vérité. On n'a pas le droit de le limiter dans la recherche de la vérité. Toute la question est de savoir, est-ce que celui qui recherche la vérité sera capable de s'arrêter avant la mise en pratique de ce qu'il a découvert ? Oui, c'est là qu'elle est la question. Dernière chose sur les sciences de la vie comme les sciences de la matière m'obligent à me pencher avec plus de précision en philosophie sur la vie et la matière. Et m'obligent précisément à cerner beaucoup plus, avec beaucoup plus de justesse le domaine propre du regard philosophique. Je dis ça parce que, par exemple, Aristote a écrit un livre qui, précisément, a fait un long héritage du côté de la cosmogénèse et de l'astronomie, qui s'appelle le De Cielo, du ciel, dans lequel il essaye de donner un modèle de l'univers, des astres. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, Aristote dit, dans cet essai, je vais essayer d'assumer ce que disent les anciens. Donc, en fait, il s'appuie sur une tradition. Et il essaie d'y mettre de l'ordre. Mais, j'allais dire, d'une certaine manière, il est à la frange de son travail de philosophe. Pourquoi ? Parce qu'il ne part pas de son expérience. Tout simplement parce que les astres, il n'en a pas l'expérience au sens direct. Il n'a pas les moyens d'expérience de juger sur ce que sont les astres. Et c'est vrai, ça il faut le reconnaître, hein, et là-dessus Galilée, j'allais dire, a un rôle bénéfique, c'est que la tentation du philosophe a toujours été, en l'absence de la science, d'occuper le terrain. Aujourd'hui, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, de se mêler et de construire des hypothèses sur ce qui n'y relevait pas de l'expérience humaine. Je n'ai pas l'expérience des astres, autre que de les voir briller dans le ciel. Mais est-ce que c'est du feu ? Vu à distance, si on ne vous l'avait pas dit. C'est vrai, quand on prend l'avion, on voit que la Terre est ronde. C'est pas facile à ras du sol. Il faut reconnaître. Vous avez beau vous élever assez haut. Même sur une montagne, ça ne suffit pas tout à fait. On voit elle est très très légère la courbure sur une montagne. Très difficile d'estimer et de démettre l'hypothèse qu'elle est ronde, que ce n'est pas simplement une soucoupe un peu arrondie. Non, je crois que c'est vrai que le philosophe, on va le revoir, doit accepter la pauvreté de son expérience humaine. Et accepte ce que le scientifique n'a pas à accepter, parce que ce n'est pas son travail, de ne pas chercher à étendre son expérience par des moyens qui la réduisent, ce que sont les procédés expérimentaux. Par exemple, quand vous mettez quelque chose sous un microscope, ça vous permet d'observer plus en détail certaines choses, mais ça vous empêche d'expérimenter d'autres dimensions, cette réalité. C'est que vous perdez complètement la notion de globalité, par exemple. Donc vous vous mettez à analyser une cellule comme si c'était un vivant. C'est ridicule. Et vous dites, oui, c'est évident, c'est une cellule d'homme. Évidemment, parce que vous l'avez extraite d'une espèce de grand chose, avec des cheveux partout, qui s'appelle un homme. Mais ce n'est pas du tout parce que vous avez vu la cellule, elle ne vous dit pas qu'elle est humaine. C'est très impressionnant, si vous voulez, de voir que la science, par abstraction, quitte complètement l'homme. Hein? Puisqu'elle extrait, elle abstrait les mécanismes. Donc elle ne regarde plus l'homme comme homme. Elle regarde les mécanismes comme mécanismes. D'accord ? Même si elle sait par ailleurs que ces mécanismes sont les mécanismes humains. Mais ça, elle le sait pourquoi ? Parce qu'elle est partie de quelque chose qui n'est pas scientifique, qui est la réalité humaine concrète. Le travail du philosophe, on va le voir, est de partir de l'homme. Et précisément parce que le philosophe part de l'homme, il ne commence pas par réfléchir sur la vie et la matière. J'allais dire parce qu'il y a plus urgent. Et puis surtout parce que il y a plus simple. Parce que réfléchir sur la matière comme ça, vous avez qu'à essayer, parce que c'est ce qu'on essaiera de faire tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur la matière ? À part ce que vous dit la science. C'est intéressant, ça va être un sondage. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la matière en dehors de ce que vous en dit la science ? C'est là qu'on voit qu'elle occupe quand même pas mal le terrain. C'est assez en marge, vous voyez. Qu'est-ce qu'on... L'artiste, si on va voir, l'artiste peut dire des choses de la matière. Mais au-delà de l'artiste, pas commun. La vie, c'est déjà plus facile, si vous voulez, parce qu'il y a l'affectivité, enfin, on voit bien. La fécondité aussi, on voit bien qu'on ne peut pas la réduire à un mécanisme purement biologique. Puis il y a la vitalité spirituelle. Mais la matière, c'est plus difficile. Donc je crois que, vous voyez, encore une fois, comme les philosophes occupaient le terrain des scientifiques, les scientifiques sont intervenus de manière tellement frappante que le philosophe a fini par se réfugier dans la conscience aujourd'hui, dans le langage, et il a fui le terrain de la matière, qui est un terrain qui n'est pas facile à occuper, mais qui est nécessaire, on va le voir, même pour la science. Parce que la question, enfin à mon avis, il y a une question, hein, qui est au fond, le scientifique de science de la vie ou de science de la matière peut-il aller jusqu'au bout sans une approche philosophique complémentaire ? Ça, c'est la question qu'à mon avis, il faut poser. C'est deux approches différentes. Donc j'allais dire, la philosophie n'est pas fondatrice de la science. Pas plus d'ailleurs que la science n'est fondatrice de la philosophie. Mais la question est de savoir, la philosophie peut-elle aller jusqu'au bout d'elle-même sans la science ? Et la science peut-elle aller jusqu'au bout d'elle-même sans la philosophie ? Parce qu'une fois que je les ai séparés, si vous voulez, ou distingués, la question est de savoir quel besoin l'une a de l'autre. Le philosophe, en tout cas, répondra que il n'a pas besoin de la science pour aller jusqu'au bout. La science peut l'obliger à aller plus vite jusqu'au bout, parce qu'elle le talonne, parce qu'elle lui pose des questions, si vous voulez, qui l'obligent à affiner son regard. Et dans certains cas, c'est bénéfique. Sans doute que sans la science, la philosophie s'endormirait, serait longtemps endormie depuis longtemps. Mais la philosophie n'a pas besoin de la science pour aboutir à la sagesse, puisque c'est sa recherche. Puisque précisément la sagesse, elle n'est pas dans la manière de faire fonctionner les choses. Elle est dans l'intelligence humaine que j'ai de ma propre vie. Et j'allais dire, elle est même dans l'intelligence humaine que j'ai de l'univers. Pourquoi ? Parce que la finalité première du philosophe, c'est vraiment de connaître l'homme pour lui permettre d'être plus homme. Puisque c'est ça, atteindre la sagesse. Il s'intéresse nécessairement à la manière dont fonctionne l'homme. Parce que je ne peux pas les séparer. Vous voyez, je veux dire, par exemple, prenons l'exemple de la maladie. la maladie vous oblige à vous intéresser aussi bien à comment ça fonctionne qu'à ce que c'est. Ceci dit, si vous vous intéressez plus qu'à la manière dont ça fonctionne, il y a des chances que vous soignez mal. Mais si vous vous intéressez que à ce que c'est, il y a des chances que vous ne guérissiez pas. Alors évidemment, dans le choix, on choisit toujours de se guérir, de se soigner mal. Mais si on prenait le temps de mieux comprendre ce qu'est l'homme, c'est d'ailleurs ce que pratiquait la médecine traditionnelle, hein, qui existe d'ailleurs toujours en Asie, la médecine hippocratique, qui était une médecine précisément qualitative, c'est-à-dire une médecine qui regardait comment fonctionnait la santé, mais à partir de ce qu'était l'homme. Donc, une fois que je les ai séparés, vous voyez, il y a une dernière question, c'est comment est-ce qu'elles peuvent... quelles sont les passerelles entre la science et la philosophie? Un des lieux privilégiés de l'étude de ce problème-là, c'est la médecine. Je ne vais pas me lancer dedans, hein, mais c'est un problème absolument essentiel. Avec la question subsidiaire que je préciserai pour la médecine, que je posais tout à l'heure, les sciences ont-elles besoin de la philosophie pour aller jusqu'au bout d'elles-mêmes? Et la médecine peut-elle non seulement aller jusqu'au bout d'elle-même sans la philosophie, mais peut-elle même commencer d'être elle-même sans le regard philosophique? La médecine, ce n'est pas la même chose que la science du vivant. Parce que la médecine, c'est un art d'application à l'homme et d'utilisation, entre autres, de la connaissance scientifique du vivant. Donc, ça, c'est une question. On ne va pas traiter tout ça, mais c'est une des questions qui est de savoir la philosophie n'est-elle pas, pour une part, fondatrice de la médecine, de l'art médical? Le regard philosophique n'est-il pas aussi nécessaire que le regard scientifique à l'apprentissage médical? C'est des questions aujourd'hui essentielles, hein, dans les débats de bioéthique. Si vous avez l'une ou l'autre question précise là-dessus, vous n'hésiterez pas à les poser, puis on passera à l'approche philosophique.